On avait fait une réunion vendredi dernier parce qu'il y avait un événement particulier qui allait se produire et qui s'est passé. C'était le 15 août. Voilà. Le 15 août, c'est un événement mondial. Parce que dans le monde entier, il y a eu des pèlerinages, il y a eu des processions, il y a eu des prières qui ont été faites. C'est l'occasion de nombreuses manifestations, disons-le, d'ordre spirituel. Hein ? C'était pas la foire du vin ou la foire du boudin, c'était une réalité spirituelle. Et donc, il est important aussi dans notre société de comprendre la place de Marie. Alors, vendredi dernier, on avait vu ce que la Bible dit de Marie. Alors, je rappelle juste ce qu'on avait vu. On avait vu que Marie est déjà pour nous un bon exemple, un modèle d'humilité. Nous avons vu que c'était une femme pieuse. Nous avons vu que c'était une femme qui était respectueuse de la foi juive qu'elle pratiquait à l'époque. On a vu que c'était une mère qui avait communiqué la foi à ses enfants. Parce qu'il y a plusieurs passages qui nous montrent que les enfants ont suivi. Rappelez-vous, Jésus à 12 ans, il était déjà dans le temple à poser des questions. Que nos enfants posent des questions à 12 ans. On a vu, et puis il y a quelques autres passages où on voit que même quand ils sont plus grands, que les enfants de Marie ont grandi, parce qu'en fait on a vu qu'il y avait une famille, mais on reverra ça tout à l'heure, ils ont continué à aller au temple, donc on voit que cette femme a communiqué l'amour des choses spirituelles à ses enfants, et ce n'est pas là une tâche facile. On a vu que Marie avait choisi un homme pieux, un homme sensible à la direction du Saint-Esprit. Femme, mariez-vous avec des hommes comme ça. On a vu que, effectivement, plusieurs fois, Marie a été en décalage avec son fils. On a vu qu'il y avait de l'incompréhension. On a même vu Jésus avoir des paroles un peu de... où il la remettait en place. D'ailleurs, je voudrais là aussi... on n'a pas développé ça la dernière fois, mais il y a une erreur souvent qui est véhiculée au travers des peintures, des choses comme ça, où on voit souvent Marie avec les disciples, avec les apôtres, à côté de Jésus. Et donc, à force de voir ce genre d'image, on croit que Marie faisait partie des disciples. Et c'est vrai que la Bible nous dit que Jésus avait ses 12 disciples, ses 12 apôtres. Et en Luc, chapitre 8, versets 2 et 3, alors je vais vous donner beaucoup de références, mais on ne va pas les lire, sinon on va perdre beaucoup de temps. Je vous le citerai à chaque fois, mais je vous les citerai. En Luc 8, chapitre 2, 3, il nous est dit que donc Jésus était entouré de ses 12 disciples, et il nous est vraiment dit aussi qu'il y avait des femmes. Souvent on oublie que Jésus se déplaçait avec des femmes qui l'accompagnaient. Mais parmi les femmes qui sont citées, il n'y a pas Jésus, sa mère. Il n'y a pas Marie, sa mère, pardonnez-moi. Parce que Marie, à l'époque, ne comprenait pas le rôle de Jésus. Et on a même vu qu'elle croyait qu'il était fou. Donc ça fait partie des conceptions souvent erronées de la place de Marie. Mais Marie, effectivement, on la voit plus tard, qui, elle, fera partie des disciples après que Christ soit mort et qu'il ait ressuscité. Et c'est là qu'on a dit Marie est une pentecôtiste. Elle était dans la chambre haute, intercédant. Et le jour où la Pentecôte est descendue, Marie, mère de Jésus, était là. Et puis, le dernier exemple que l'on peut garder en exemple pour nous, c'est que Marie a été un exemple de dignité devant la souffrance, devant la justice. Marie était là, au pied de la croix. Elle n'est pas seulement au pied de la croix, Marie, c'est son fils qu'elle voit en train de souffrir. C'est son fils avec lequel elle a eu de temps en temps de l'incompréhension, mais elle est quand même là. Elle a été fidèle, elle a été attachée à son fils parce que c'est son fils, c'est son premier fils. Et il est là, battu, flagellé, meurtri, torturé sous ses propres yeux. Et on voit là Marie, pleine de dignité. Pas de révolte, pas de haine, pas de contestation, pas de méchants propos contre les soldats, non, quoi que ce soit. Marie souffre en toute dignité. Et ça, c'est aussi pour nous un exemple de force de caractère, d'être capable de supporter l'injustice, la souffrance, sans la reporter sur les autres et de faire de ceux qui nous entourent nos souffres-douleurs. Et aujourd'hui, on va voir, et c'est le deuxième volet, ce que j'ai appelé les abus théologiques qui sont dits sur Marie. Il faut se rappeler que, pour ceux qui étaient là mercredi, On avait vu l'origine des Samaritains. On va faire court, je ne vais pas noyer ceux qui n'étaient pas là, mais pour ceux qui étaient là mercredi, ils vont vite faire la relation. On a vu l'origine des Samaritains. Les Samaritains, c'était des gens qui, à la fois, pratiquaient la loi de Moïse, ils se revendiquaient de Moïse, mais en même temps, ils mélangeaient les cultes des autres religions, et notamment des Babyloniens. Et donc, les Samaritains faisaient ce mélange un peu. C'est comme s'ils prenaient un peu de la Bible et un peu, je sais pas, du... Hein ? Du Coran, voilà, exactement. Même si le Coran, c'est déjà un mélange de tout ça, mais bon, en gros, c'est ça. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec le culte à l'égard de Marie. C'est que d'un côté, les pratiques qui sont liées à Marie sont des pratiques qui étaient dans les autres religions depuis très longtemps. Par exemple, Astarté, c'est une divinité que l'on voit dans l'Ancien Testament, on appelle ça l'Antiquité. Ishtar, ça vous dit quelque chose, Ishtar ? Vous, ça vous dit rien. Mais pour les Babyloniens, c'était une déesse très connue. Isis, en Égypte. Et Artémis, grec. Voilà. Et j'en ai cité que 4-5. Mais dans toutes les cultures, il y a toujours une divinité femme et qui a déjà, en fait, tous les titres que Marie a et porte aujourd'hui. Et donc, en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que dans le culte de Marie, les gens ont pris tous ces cultes païens, mais sous prétexte que ça sort de la Bible, ah ben Marie, elle est dans la Bible, alors vous voyez, c'est un culte chrétien, donc c'est agréable à Dieu. Donc c'est une sorte de mélange comme ça, entre la Bible, parce qu'elle sort de la Bible quand même, Marie, et toutes les pratiques de l'extérieur qui font que ça devient un gros mélange. Il y a même dans le livre de Jérémie, c'est un prophète de l'Ancien Testament, pour ceux qui prennent des notes, vous pourrez le lire au chapitre 7 et verset 18, et d'ailleurs encore en 44, verset 17, il est dit « Les enfants ramassent du bois, les pères allument du feu, les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin, dit Dieu, de mériter. » Donc déjà, il nous était parlé d'une reine du ciel, ok, vous doutez déjà, et Dieu dit, les gens font des choses comme ça, mais moi là, ça mérite. Dieu a le cœur irrité avec ce genre de pratique. Alors, on va pas... Je ne vais pas rentrer dans une étude historique et archéologique. Franchement, on pourrait. On pourrait juste faire l'histoire des religions païennes et vous pourriez vous dire, mais attends, mais tout ça, c'est Marie, quoi. Mais non, on va plutôt se contenter ce soir de fixer notre attention sur quelques titres, je crois que j'en ai choisi 5. 5 ou 6, je ne sais plus. Sur quelques titres qui sont donnés à Marie. Et puis on va voir en quoi, bibliquement, ça ne tient pas debout et pourquoi la chose, elle est fausse. Jésus a dit une phrase en Matthieu chapitre 15, versets 6 et 7. Il a dit, à l'époque, c'était aux Juifs, vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Et avec Marie, c'est cela. Les gens ont ajouté des traditions à la foi chrétienne. Mais le problème, c'est qu'à force de rajouter des traditions, eh ben c'est la parole de Dieu qui a été méprisée. La vraie question toujours à se poser lorsque on se questionne sur les choses spirituelles, c'est de se demander, est-ce que Dieu est d'accord avec cela? Est-ce que Dieu, dans sa parole, a donné son accord? Un premier titre que j'ai voulu relever, c'est le titre de « Mère de Dieu ». Alors ce titre-là n'existe absolument pas dans la Bible. Marie n'est jamais appelée la Mère de Dieu. D'ailleurs, honnêtement, quand on dit « Mère de Dieu », est-ce que ça ne vous fait pas un effet bizarre? On a l'impression que Dieu a été créé par Marie, quoi. Que c'est Dieu qui en fait, que Marie a existé avant Dieu, quoi, non? C'est bien ça le sens de la phrase, Mère de Dieu. Alors, si on veut être un peu plus... Si on veut comprendre pourquoi il dit ça, ce raisonnement simpliste, Ils parlent d'une chose qui est juste. Ils disent que Jésus est Dieu. Ça, c'est vrai. Ils disent que Marie est la mère de Jésus. Ça, c'est vrai. Donc, ils se disent, si Jésus est Dieu et que Marie est la mère de Jésus, alors Marie est la mère de Dieu. Vous voyez le stratagème ? Mais quand même, ça a un goût de mensonge. Parce que c'est vrai que Jésus nous dépasse dans la compréhension de sa personne, mais il y a quelque chose qu'il faut réaliser de Jésus. C'est que Jésus n'est pas un homme comme les autres. Jésus est parfaitement homme et il est parfaitement Dieu. Marie est la mère de Jésus. Au sens où effectivement, l'enfant qui est dans son ventre, c'est bien Jésus. Et il porte un ADN humain qui est celui de Marie. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, s'il devait avoir une ressemblance, il devait certainement ressembler beaucoup à sa mère. Ça, c'est vrai. Mais l'être humain n'est pas fait que de chair. Il a aussi un intérieur, n'est-ce pas ? Je ne sais pas de qui vous avez le caractère, du père ou de la mère, ou d'un oncle, ou des grands-parents, mais il y a toujours quand même quelque chose. On hérite physiquement d'un des parents, de temps en temps d'un peu des deux, mais on sent qu'il n'y a pas que l'être physique, il y a aussi l'être intérieur. Et Jésus n'a pas eu, Marie n'a pas eu de relation sexuelle avec un homme. Il nous est dit que la naissance de Jésus, c'est ce que nous avions vu la dernière fois, c'est faite par la puissance de Dieu au travers du Saint-Esprit. La puissance du Théo descendra sur toi, et à l'action du Saint-Esprit, cet enfant naîtra dans tes entrailles. Jésus est parfaitement homme, et il porte l'ADN de sa maman. Amen. Mais intérieurement, il est parfaitement Dieu, car il porte en lui la nature divine. C'est pour ça que la Bible utilise deux expressions. Jésus, fils de Marie. Marc, chapitre 6, oui, il est le fils de Marie, mais il est aussi le fils de Dieu. Et nulle part, il est dit que Marie est la mère de Dieu. Parce que si on dit ça, ça veut dire que la divinité est passée par Marie. Et qu'elle-même, elle est Dieu pour susciter un Dieu. Et ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. On verra pourquoi encore tout à l'heure, elle n'est pas Dieu, mais il faut réaliser que Marie est une femme comme une autre. Et que l'expression qui est adéquate à l'égard de Marie, c'est que Jésus est le fils de Marie, tout simplement. Mais il n'y a pas d'ascendance de Marie sur Dieu. Il nous est parlé aussi, un autre titre, Sainte Vierge. Ok, connu aussi. Certains même disent, ah mais vous croyez pas en la Sainte Vierge. Si, nous on croit à la virginité de Marie. D'ailleurs, on vient juste de le prêcher à l'instant. Marie, c'est un miracle. Ça nous dépasse, ça on est d'accord là-dessus. Que Marie était parfaitement vierge au sens où elle n'a eu aucune relation sexuelle avant d'avoir mis au monde son fils.
On disait que Marie, c'était la mère de Jésus et la femme de Joseph.
Alors, c'est vrai.
D'où vient Joseph, en fait.
Alors, Marie, à l'époque où l'ange est venu visiter Marie était fiancée à un monsieur qui s'appelait Joseph.
Ah, d'accord.
Okay. Mais dans la plus pure tradition de l'époque, et que l'on doit continuer pour ceux qui vivent dans la sainteté, on n'avait pas de relation sexuelle avant le mariage.
Okay,
d'ailleurs, c'est pour ça que c'est super de lire la Bible, mais on s'aperçoit que quand elle a commencé à être un peu en grossesse, Joseph voulait se séparer. Parce qu'il se dit, mais attends, tu commences à avoir un petit... on ne sait pas comment ils se sont arrangés, mais il voulait rompre. Il s'est dit, mais je ne peux pas prendre une femme qui a déjà eu des rapports avec quelqu'un. En plus, elle m'a trompé, enfin, on peut imaginer. Et c'est divinement inspiré par le Saint-Esprit que Joseph s'est entendu dire, si, prends cette femme, car l'enfant qu'elle a vient de Dieu. Alors, par la foi, il a accepté. C'est pour ça qu'on peut dire que Joseph, c'est comme le père adoptif de Jésus. Parce que le vrai père de Jésus, c'est Dieu lui-même. Mais tu as très bien fait de dire ça. Parce que cette Marie, qui a eu un mari qui s'appelait Joseph, ce sont des hommes et des femmes ordinaires, appelés à avoir d'autres enfants. Mais d'ailleurs, en Luc chapitre 2, verset 6, il est parlé de Jésus comme étant le premier-né. Quand vous entendez ça, premier-né, ça veut dire quoi ?
Qu'il n'y a personne avant lui.
Il n'y a eu personne avant lui.
Donc tu veux marier Joseph,
Mais si on dit... Y a-t-il une différence entre un enfant premier-né et un enfant unique ? Et si, il y a une différence. Parce que si on dit que Jésus était le fils unique de Marie, alors on dit, elle a eu un seul. Mais quand on dit à quelqu'un, c'est mon fils premier-né, ça sous-entend que il y en a eu d'autres. Et ça, c'est la Bible qui le dit. Non seulement, donc Luc chapitre 2, verset 6, nous dit que Jésus est le premier-né, mais on connaît même les frères, le nom des frères. En Marc chapitre 6, verset 3, il dit, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie ? Le frère de Jacques, de Josse, de Jude, de Simon, famille nombreuse, et les sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et il était pour eux une occasion de chute. Donc il a au moins quatre frères, et plus des sœurs, famille nombreuse. Ce n'est pas un péché d'avoir des enfants. Au contraire, c'était une marque de bénédiction. Et puis on voit dans la suite des évangiles, en Jean chapitre 2, en Matthieu chapitre 12, en Jean chapitre 7, en Marc chapitre 3, dans tous ces chapitres-là, vous voyez qu'il est parlé des frères de Jésus. Donc ça veut dire que les frères de Jésus existaient véritablement. Vous savez même qu'on a cité Jacques, et on l'oublie souvent, mais Jacques, c'est celui qui a écrit l'épître de Jacques. D'ailleurs, Paul, au chapitre 1, verset 19 de Galates, Galates 1, 19, c'est l'apôtre Paul qui dit « Je n'ai vu aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » Donc ce n'est pas du bluff. Il avait vraiment des frères et tout le monde savait que Jacques, c'était le frère du Seigneur. Alors certains ont voulu dire « Oui, mais tu sais... » Et oui, et Jacques en plus, c'était le responsable de l'église de Jérusalem. Alors certains ont dit « Oui, mais en fait, dans la tradition orientale, quand on parle d'un frère, en fait, ça peut être un cousin... » Mais pas du tout. La Bible est très claire. Alors je ne dis pas que dans la tradition orientale, on n'appelle pas de temps en temps frère celui qui est en fait un cousin. Je suis marié avec une Africaine et quand ma nièce à Bordeaux elle dit « Ah, on a une sœur, elle s'appelle Akewa », même les instituteurs disent « T'as une autre sœur, elle est où ?» C'est limite, si on n'appelle pas les assistants sociaux, il faut expliquer que non, c'est la sœur de ma sœur. Donc c'est vrai, il y a une habitude culturelle qui fait que les enfants de nos enfants sont les enfants, quoi. Mais, c'est quoi notre référence ? C'est la Bible. Et la Bible, elle est précise. Et dans la Bible, il y a des mots différents. Et quand il est parlé des frères et des sœurs, alors pardonnez-moi si je prononce mal, mais quand on parle de frère de sang, on dit Adolfo. Et quand on parle d'une sœur, Adelpha. Et c'est bien ce mot-là qui est employé pour parler des frères et des sœurs de Jésus. Et quand il est parlé des cousins, c'est un autre mot qui dit Anepsios. Et ce mot-là, cousin, on le retrouve plus loin. Vous le lirez en Colossiens, chapitre 4, verset 10, pour véritablement parler de cousin. Et quand il est parlé de parenté, au sens large du terme, il est parlé de syngenesis, mille excuses encore pour la prononciation, en Luc, chapitre 2, verset 44. Donc, lorsque des gens veulent dire que Marie était une sainte vierge et qu'elle est restée vierge toute sa vie, ils sont en contradiction avec une multitude de textes de la Bible qui nous disent au contraire que Jésus avait des frères et des sœurs et qu'ils étaient tous pour la même origine Marie. Un autre titre qui est donné à Marie, c'est Immaculée Conception. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression ? Immaculée, sans tache, conception. Conception, c'est à la création. Donc ça veut dire, par ce titre, qui est conféré à cette dame, que Marie est née sans péché. Pourquoi pas? En tout cas, certains le disent. Est-elle née sans péché? Pourtant, on l'a vu. Alors, sachez que ce dogme a été établi en 1854. Hein. Pourtant, on voit que, quand on lit les évangiles, et on l'a cité tout à l'heure, elle s'est trompée plusieurs fois. Elle n'a pas compris la mission de Jésus. Jésus lui-même a dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Jésus a dit, ma mère, mes frères, c'est ceux qui écoutent ma parole. On voit que Marie a même pris Jésus pour un fou. Ça veut dire qu'il y avait là une incompréhension, et comme on l'a dit tout à l'heure, Marie ne faisait absolument pas partie des disciples de Jésus. Donc pour quelqu'un qui est sans péché, il y a quand même eu pas mal de maladresses, d'erreurs. Et on n'est pas en train de dire qu'elle est mauvaise, qu'elle est pire que les autres. On n'aura peut-être pas fait mieux qu'elle. Mais on veut dire par là que Marie n'était pas une femme sans péché. D'ailleurs, elle-même va appeler Dieu « mon sauveur » en Luc chapitre 1, verset 47. Et pour un juif, et on l'a dit ça, Marie, elle est pétrie de la culture juive, elle connaît les Écritures, elle prie son Dieu, même elle faisait des sacrifices pour le pardon de ses péchés. Et quand un juif appelait Dieu son sauveur, c'était la prise de conscience de la nécessité de recevoir le pardon de Dieu. Car la première chose que Dieu veut faire quand il voit l'homme, c'est le sauver de sa misère. Ce qui rend l'homme malheureux, c'est le péché. Ce qui rend l'homme étroit dans son cœur, ce qui l'emmène à des pensées de mort, de dépression, d'insatisfaction, de désespoir, d'impuissance. Mais c'est le péché. C'est le péché qui tue la vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on expérimente cette prise de conscience sincère et qu'on crie au Seigneur et que Dieu nous accorde son pardon, cette guérison intérieure, alors on est tous, et plusieurs ont fait cette expérience, Dieu devient comme un sauveur, comme un libérateur. Une chape de plomb se retire de notre conscience, un manteau sale se détache de nos épaules, une respiration se retrouve dans notre être intérieur, nos yeux s'ouvrent, on est sauvé, on est libéré, on est affranchi, on n'est plus esclave du péché, mais on est libéré, on est sauvé. Et c'était ce que Marie a expérimenté. Donc Marie, de sa propre bouche, reconnaît Jésus, enfin Dieu, pardonnez-moi, comme son sauveur. Donc Marie était une femme pécheresse. D'ailleurs, ce serait en totale contradiction avec toute la Bible. Le psaume 14, verset 3, dit que tous sont égarés et tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Sur la terre, pas la peine de se regarder et dire « est-ce que je suis meilleur ?» Non. Nous sommes tous des bras cassés de la vie. Nous sommes tous des pécheurs. Même pas besoin de se dire « oui, mais toi, t'as fait quoi comme pécheur ?»« Bon, moi, j'ai fait des péchés, moi. » Nous sommes tous pécheurs. Vous savez, s'il y avait une tache noire sur ce mur, même s'il ne faisait qu'un centimètre, vous ne verriez que ça, n'est-ce pas ? Nous sommes des pécheurs tous. Non seulement nous sommes capables de faire des péchés volontaires, de nous laisser aller à des choses que notre propre conscience dit « Non, fais pas ça. Stop, arrête. » Et puis on le fait quand même. Et ça c'est le péché volontaire. Et on sait qu'on est capable de ça. On est même capable de dire aux autres ce qu'il faut faire et puis nous de faire l'inverse. On est même capable de donner des conseils aux autres. Et en même temps qu'on se les dit, on se dit « Ah oui, mais moi... » Enfin bref. Et puis il y a même tous les péchés involontaires. Les choses, le mal que l'on fait, les maladresses que l'on fait, involontairement, mais c'est fait, quoi. Nous sommes des pécheurs par nature. Et même quand nous avons donné notre cœur au Seigneur, et que le Seigneur ôte l'influence du péché, que nous ne sommes plus dominés par le péché, il faut reconnaître que par nature, nous sommes encore faibles, et qu'il arrive encore, de temps en temps, de trébucher. C'est pour ça que la Bible nous dit que si nous avons péché, il faut tout de suite, le plus rapidement possible, les confesser au Seigneur. Dire, Seigneur, purifie, change-moi, transforme-moi, comme nous l'avons chanté. Seigneur, change mon cœur. Et le Seigneur renouvelle sa bonté dans nos cœurs. Mais à plusieurs reprises dans la Bible, il nous est parlé que nous sommes tous des pécheurs et qu'il n'y a aucun, même pas un seul qui est pur. Tous ont péché, Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gracieusement justifiés par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Amen. La théorie qui dit que Marie serait sans péché, en fait, c'est une aberration. En fait, ça, techniquement, c'est pas possible. Parce que la Bible nous rappelle un principe simple, mais heureusement qu'il le dit. C'est en Genèse chapitre 6. Le principe, c'est que chaque espèce se reproduit selon son espèce. En gros, une pomme, ça donne une pomme. Bien. Un escargot, ça donne un... Ok, je crois que vous avez compris le principe. Un pêcheur, ça donne un... Un pêcheur. Et depuis Adam, Genèse chapitre 5. Et on voit bien d'ailleurs, le texte nous montre bien la différence. Il nous dit que Dieu a créé Adam à son image, dire dans une parfaiteté, dans une honnêteté, dans une puissance, une grâce, une capacité, une harmonie. Qu'Adam a péché et qu'après Adam a eu des enfants selon son image à lui. Et donc depuis Adam, nous ne sommes que des clones au niveau du péché. Si je suis un pécheur, j'ai le droit de me tourner vers mon père et ma mère et dire « Je suis pécheur parce que vous êtes des pécheurs et vous m'avez communiqué votre ADN du péché. » Et eux auraient le droit de se tourner vers qui? Vers leurs propres parents. Et ainsi de suite. Mais revenons à notre mari. Si Marie est immaculée conception, ça veut dire que quoi alors? Ses parents sont sans péché. Donc, les parents de ses parents sont sans péché. Et on remonte à quoi? Et quand la Bible dit que tous ont péché et qu'il n'y a pas un seul juste, c'est dire que là, il y a un gros problème dans le maillage généalogique. Donc, c'est même une aberration que de dire que Marie était sans péché. Par contre, la Bible nous dit, et nous le rappelle, Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 9, Jean chapitre 8, 2 Corinthiens chapitre 5, 1 Pierre chapitre 2. Tous ces passages nous disent que Jésus, lui, était sans péché. Pourquoi? On l'a expliqué tout à l'heure. Bien sûr, il y avait le contexte physique, et Jésus était le fils de Marie, donc physiquement, il était Marie. Il ressemblait à Marie. Il avait la texture de Marie, la chair de Marie. Mais intérieurement, et c'est là que se loge le péché. Il est dans notre être intérieur. Mais Jésus était intérieurement saint, parce que Dieu est saint. Et c'est pourquoi Jésus était sans péché. Il nous est dit aussi qu'il a été tenté en toutes choses, mais qu'il n'a succombé à aucune tentation. Et même Jean. 1 Jean chapitre 3 verset 5, il est écrit « Or vous le savez, Jésus apparut pour ôter le péché et il n'y a en lui point de péché. » Vous savez, il y a plusieurs fois je vais vous parler de Jean. Parce que le témoignage de Jean est très important. Jean, c'est le dernier des apôtres. C'est lui qui est mort après tous les autres. Donc s'il y en a bien un qui connaît les conversations, Jean a vécu avec Jésus. Il est même assez proche. Il nous est parlé qu'il était bien aimé. Et Jean a eu une autre particularité. C'est que quand Jésus était à la croix en train de mourir, il y avait au pied de la croix Marie, on l'a déjà dit. Mais il y avait aussi Jean. Et quand Jésus est mort, il a demandé à Marie de le traiter comme son fils. Il a demandé à Jean de la traiter comme sa mère. Et l'Écriture nous dit qu'à partir de ce jour, Jean s'est occupé de Marie. Ça veut dire que tout le reste de la vie de Marie, Jean la connaissait très bien. Jusque alors, on ne sait pas quand Marie est morte. Il y a quelques hypothèses. si on se base sur la tradition, elle serait morte dans les années 70, mais c'est à prendre avec des pincettes. Sachez que Jean, lui, est mort dans les années 90, et même 100 après Jésus-Christ. Je veux dire par là que, sachez que quand je cite Jean en référence, c'est que s'il y a bien quelqu'un qui pouvait dire « Ah, vous savez, tous ont péché, sauf Jésus et Marie », il aurait pu, parce que lui, il a reconnu Marie. Mais non, il le dit bien qu'il n'y a que lui qui était sans péché. Et celui, c'est Jésus. Amen. Un autre titre qui est donné à Marie, c'est la co-rédemption. Co-équipier, c'est un quoi ? Un équipe avec. Co-équipier. Co-rédemptrice, ça veut dire que Marie sauve les âmes tout comme Jésus sauve les âmes. Pourtant, la Bible affirme une chose claire, nette, précise. Actes, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Tout est dit dans cette phrase-là. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus par lequel nous devons. C'est même pas une possibilité, parce que s'il était écrit par lequel nous pouvions être sauvés, on peut avec lui, on pourrait avec quelqu'un. Non, c'est un devoir. On doit être sauvé. Il n'y a qu'une seule personne, un seul nom qui a été donné. Et le texte précise bien, même parmi les hommes, parmi toute l'humanité, parmi toutes les personnes que l'on peut nommer, il n'y a qu'un seul nom. C'est le nom de Jésus. Il n'y a pas de co-rédemption. Pas plus avec Marie qu'avec Paul ou Pierre ou Jacques ou je ne sais pas trop qui. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Jésus a dit « Je suis la porte. » Je ne sais pas combien vous avez de portes pour rentrer chez vous. Mais il n'y en a qu'une. Et d'ailleurs, Jésus va dire « Quiconque essaie de rentrer autre part, c'est un voleur, c'est un menteur. » Un destructeur. Faisons attention. Il n'y a que Jésus qui a été donné. Et d'ailleurs, et je vais le replacer, Jean, 1 Jean, chapitre 4, verset 14, Jean va dire, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Amen. Il n'a pas dit... Et le Fils et la Mère comme sauveur du monde. Il a parlé que de Jésus comme étant le sauveur du monde. Pourquoi est-ce que Jésus peut sauver et lui seul? C'est là une question importante à comprendre aussi. L'homme n'est pas sauvé parce qu'il est gentil. L'homme n'est pas sauvé parce qu'il appartient à une religion. Ah oui, mais Marie, elle est gentille, c'est une femme, elle est sensible, alors elle va être attendrie par notre situation. D'ailleurs, les gens parlent un peu comme ça. On passe par Marie parce qu'avec elle, comme si c'était une gentillesse, une grave, oh, un peu de la crème chantilly, je ne sais pas quoi. Là. Alors elle est tellement comme ça qu'avec elle, ça passe. Mais le problème... C'est que ce qui nous empêche d'arriver au ciel, ce qui nous empêche d'être en communion avec Dieu, ce n'est pas une question de ce que l'on fait, ce n'est pas une question d'adhésion. La Bible nous dit que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Nous avons tous la possibilité, nous sommes tous été créés pour avoir une relation avec Dieu, tous, que personne ce soir ne puisse se dire « mais moi c'est pas possible, moi c'est trop dur, moi je suis comme ça, moi je suis un cartésien, et puis moi avec tout le mal que j'ai fait, et moi avec mon passé, et... » Stop ! Dieu nous a foncièrement créés pour que nous ayons une relation avec Dieu, foncièrement, d'ailleurs au-dedans de nous, si vous êtes là ce soir, c'est que vous savez qu'il y a quelque chose qui vous pousse à penser à Dieu, à l'éternité, même si vous n'avez pas mis un visage, un nom, une identité, c'est pas grave, il y a au-dedans de nous la pensée de ce divin. C'est que nous sommes foncièrement capables d'être en relation avec Dieu. Et la Bible nous explique que ce qui fait, qui brouille la fréquence, ce qui fait qu'on a l'impression que Dieu est loin, ce qui fait que de temps en temps on a l'impression que entre Dieu et nous, c'est comme s'il y avait un grand gouffre. La Bible nous dit c'est le péché. Et la Bible nous explique, et nous le savons, qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Aucun être humain. Ce n'est pas le pasteur qui pardonne. Ce n'est pas le curé qui pardonne. Ce n'est pas le pape qui pardonne. Ce n'est pas votre banquier qui va pardonner. Enfin, bref, vous comprenez. Ce n'est pas vos parents. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner nos péchés. C'est pourquoi la Bible nous invite à nous repentir. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Jésus, c'est Dieu sur terre. Et c'est pourquoi il allait de lieu en lieu. Et qu'il disait aux uns et aux autres, ta foi t'a sauvé. Je te pardonne. Il y a une scène qui est magnifique. Il y avait un homme qui était paralytique. Paralytique. Il n'y avait pas les fauteuils roulants à l'époque. Paralytique là, par terre. Et Jésus va dire à cet homme, voyant la foi de cet homme, tes péchés sont pardonnés. Puis les gens ont commencé à murmurer, dit, mais il pêche. Ce Jésus qui parle là, comment est-ce qu'il peut pardonner les péchés? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Tu blasphèmes, tu te prends pour qui, toi? Et Jésus a dit, dites-moi, qu'est-ce qui est plus facile de dire à un homme paralytique? De dire tes péchés sont pardonnés et on ne voit rien? Ou de dire à cet homme, lève-toi et marche. Qu'est-ce qui est plus facile? La première parole, c'est de l'ordre de l'invisible. Mais dire à un paralytique, allez-vous dehors. Allez voir un gars qui boite. Oh, marche maintenant. S'il n'y a rien qui se passe, vous l'avez mal. Et Jésus dut continuer sa phrase. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis. Lève-toi et marche. Et cet homme se mit à marcher. Que personne ne se dise, on verra plus tard. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés ici-bas, dès maintenant, dès ce soir. Ce qu'il attend de nous, c'est la foi. Seigneur, si tu es capable de changer ma vie, je te la donne. Seigneur, si c'est vrai que tu peux retirer toute cette puanteur, toute cette méchanceté, toute cette dureté, tout cet orgueil, si tu peux retirer ce mensonge, si tu peux changer cette puissance, enfin ce truc qui fait que je m'en sors pas, si tu peux briser tous ces liens, si tu peux me rendre libre, Seigneur, change mon cœur, change ma vie. Et je vous le dis au nom de Jésus-Christ, vous serez libre en proportion de la foi que vous laisserez à Jésus-Christ agir dans votre vie. Il n'y a pas de co-rédemption. Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus. Et puis, en 1950, a été votée l'Assomption de Jésus. On y est enfin à l'Assomption. En 1950, c'est hier, hein ? Oui, j'ai dit quoi, moi ? Oh, mille excuses. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il dit... Pour Jésus, on parle de l'Ascension, et pour Marie, on parle de l'Assomption. Alors qu'en fait, c'est la même chose. On prétend, enfin, certains prétendent, que Marie, après sa mort, donc elle est bien morte, mais elle est montée au ciel. Alors ils sont pas très clairs, hein. Ils savent pas si le corps est monté en même temps ou si son corps est resté. Enfin bref, vous savez, après, hein, dans les histoires un peu, on finit un peu par s'embrouiller dans les vraies versions, étant donné que. Mais en gros. Certains disent que Marie, une fois qu'elle est morte, elle est montée au ciel comme Jésus et qu'elle est installée dans le ciel pour régner comme Jésus. Alors évidemment, la Bible ne dit rien là-dessus. Quand Étienne, le premier martyr, a eu cette vision du ciel, il n'a pas vu Marie au ciel. Quand Paul lui aussi décrit la vision qu'il a eue du ciel, il ne parle pas non plus de Marie. Alors on pourrait dire oui, mais comme elle est morte après, ok, pourquoi pas. Mais on parlait de qui tout à l'heure? De Jean, n'est-ce pas? Et Jean aussi, lui qui a écrit l'Apocalypse, et qui a plusieurs fois décrit le trône de Dieu, ne parle pas non plus de Marie dans le ciel. Donc, il n'y a rien d'autre à dire, si ce n'est que cette notion d'assomption, en plus de ne pas avoir de cohérence dans le récit, n'a aucun appui scripturaire, et au contraire, si Jean, qui était le dernier des apôtres, qui a vu ça après la mort de Marie, et qu'il s'est passé toutes ces choses-là, et que plusieurs tableaux du trône de Dieu a été décrit par Jean, jamais il n'a décrit Marie dans cette situation, c'est que cela ne sert à rien de continuer à cultiver un mensonge. Mais en fait, la vraie question, c'est de se dire, mais quel est l'intérêt de rajouter toutes ces croyances? C'est quoi l'intérêt? Récapitulons ce qu'on a vu juste ce soir. On a dit qu'elle avait soi-disant le titre de mère de Dieu, c'est-à-dire qu'en gros, elle est l'égalité de Dieu, pour ne pas dire qu'elle est même un peu avant Dieu, ou tu. Comme Jésus, Jésus est Dieu. On a dit aussi que soi-disant, elle est sans péché. Comme qui? Comme Jésus. On a dit que, comme elle est co-rédemptrice, elle a le pouvoir de pardonner les péchés. Comme qui? Comme Jésus. On a vu, là, le dernier point, qu'elle était glorifiée dans le ciel. Comme Jésus. Et on pourrait continuer comme ça, le comme Jésus, comme Jésus, comme Jésus. Tout simplement. Et je ne vois pas d'autre intérêt à cultiver ce nombre de croyances, si ce n'est que de vouloir donner à Marie la place qui devrait revenir à Jésus lui-même. Pourquoi? Pourquoi absolument vouloir créer une divinité, une personne qui a exactement les mêmes attributs que Jésus, si ce n'est que de la remplacer et que de le remplacer? Surtout que la Bible nous met en garde. Exode chapitre 20, versets 2 à 4. Le premier commandement que Dieu a donné, le premier des commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est la première des choses. Avant tous les autres commandements, Dieu a dit, je suis Dieu et n'adore personne d'autre que moi. Personne d'autre. Mais soyons un petit peu plus précis. Et levons le voile sur un autre aspect du message de la Bible. Parce que la Bible nous présente Dieu et c'est vraiment lui que nous devons rechercher. Mais la Bible nous explique aussi les intentions de celui qui est appelé le malin, plus communément appelé le diable. Et la Bible nous dit que le diable cherche cette adoration des hommes. Et la Bible nous dit, en 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, que le diable est capable de se transformer en ange de lumière, en un astre resplendissant, lumineux. Le diable est capable d'apparaître devant les hommes comme une créature angélique. N'y a-t-il pas de nombreuses apparitions de Marie depuis des siècles? Il nous est même dit en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 et 10, que le diable fera des signes et des prodiges pour tromper les gens. Oh, il a fait un miracle! Mais tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas parce que vous allez voir un guérisseur que la guérison vient de Dieu. D'ailleurs, il y a souvent d'autres conséquences à ces gens qui trafiquent avec les puissances, avec les miracles mensongers, avec ces puissances, ces dons dont on ne connaît pas vraiment l'origine. Matthieu, chapitre 24, verset 24, et c'est Jésus qui l'avait déjà dit, que non seulement ces signes, ces miracles se produiront par le diable, mais ils auront pour but de séduire même les croyants. Ne nous arrêtons pas à la forme. Ne nous arrêtons pas au style. Même l'apôtre Paul avait dit que même si un ange du Seigneur apparaissait sous mes yeux et qu'il prêchait un autre évangile que celui qui a été donné, que celui-ci soit maudit. Même si vous avez devant vous une légion d'anges qui vous disait quelque chose qui serait contradictoire avec la Bible, alors ne vous fiez pas à l'apparence de ces anges, même s'ils sont magnifiques. Vous savez, pendant un temps, il y avait une série publicitaire contre le sida. Et on voyait soit un beau garçon ou une belle fille, vous rappelez de ça? Et qui disait le sida est souvent beau ou un truc comme ça. Et en fait, c'était pour attirer l'attention sur le fait que la transmission du sida ne prévient pas, c'est pas avec des gros panneaux, c'est pas avec des choses vulgaires, mais ça vient justement au travers de la séduction et qu'on peut se laisser infecter du sida même au travers d'un beau garçon ou d'une belle fille, et que l'apparence ne reflète pas forcément le danger que cette personne représente. Il en est exactement de même avec le diable. Le diable trompe, il séduit. Il ne viendra jamais à vous avec un lance-roquette et un poignard américain, non. Mais il viendra vers vous avec beaucoup de sourires, beaucoup d'éclat, beaucoup d'apparence, beaucoup d'invitation agréable, afin de mieux vous empoisonner. Le dernier point sur lequel je voudrais vous mettre en garde, c'est ce qui est appelé la prière à Marie. Une prière courte, très facile à réciter, rapide à faire. Mais il faut comprendre qu'une prière, c'est une alliance que nous faisons. D'ailleurs, bien souvent dans la parole de Dieu, il nous est demandé d'être sérieux dans la prière. De prendre conscience que quand on prie, c'est pas des paroles en l'air. Il y a véritablement une relation et que Dieu écoute les prières. Il faut réaliser que la prière, c'est pas un exercice psychique, c'est pas pour vider l'être intérieur, faire zen, pas du tout. La prière, c'est un dialogue. Et la parole est une puissance. La parole a une action. La parole a une influence. Déjà, nous le voyons quand nous parlons les uns avec les autres. Nous nous influençons par nos paroles, n'est-ce pas? Ce que l'on va se dire les uns aux autres, on le garde en mémoire. De temps en temps, d'ailleurs, s'il y a des incompréhensions, on n'est pas très à l'aise. On continue d'y penser. Mais la Bible nous dit que nos relations doivent toujours être les plus claires, les plus nettes. Mais quand on parle à Dieu, quand vous priez, sachez que vous êtes écouté. Et que ce qui sort de notre bouche à l'égard des choses spirituelles ne sont pas là à jeter en l'air et puis ça va retomber, on ne sait pas trop où. Ce sont des alliances. Permettez-moi de vous mettre en garde sur la prière à Marie. Car si cette prière est courte, la fin de la prière vous engage pour l'éternité. Car la fin de la prière se termine par ces mots, je ne la recite pas, mais je vous en donne la consistance. Dans la prière à Marie, les gens demandent à ce que elle prie pour eux maintenant et à l'heure de leur mort. Quand les gens formulent cette prière à Marie, ils lui disent à elle, s'il te plaît, toi, prie pour moi, pour maintenant et pour le jour où je vais mourir, sous-entendu pour mon éternité. Comprenez-la que par cette phrase, c'est une prière de soumission et une offrande de leur âme. Pour quiconque a été initié dans les choses occultes, ça s'appelle un pacte. Quand on se soumet à une puissance spirituelle et qu'on lui offre notre âme, et c'est là qu'on s'aperçoit que derrière cette simple petite prière faite, où on va demander à cette divinité dont nous avons vu qu'elle cherche à prendre la place de Dieu, qu'elle existe depuis toute éternité, que depuis dans toutes les sociétés, cette divinité a appelé des noms différents, mais que Dieu disait que ces choses-là l'irritaient, que l'on s'aperçoit à la lumière de l'évangile, que en fait ça, son vrai visage et changer, transformer, pour séduire les gens. Mais que la Bible nous dit bien que derrière toutes ces choses-là, c'est la puissance des ténèbres. Quand vous formulez cette prière, s'il te plaît, prie pour mon âme, maintenant et pour l'éternité, les gens font un pacte avec cette puissance spirituelle pour maintenant et pour leur éternité. Permettez-moi de vous dire que le diable n'a aucune intention que vous alliez au paradis. Aucune. Quiconque offre son âme au diable, le diable ne la refusera pas. Alors, restons sur les paroles de Jésus qui a dit « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. » Amen. Il n'y a que lui, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un qui soit capable de sauver. Il n'y en a qu'un qui soit capable de guérir. Il n'y en a qu'un qui soit capable de pardonner nos péchés. Il n'y en a qu'un qui est capable de transformer nos vies. D'ailleurs, il est dit qu'il est celui qui peut transformer nos vies au point de naître de nouveau. L'espérance est en lui, la guérison est en lui, l'avenir est en lui, la solution est en lui. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. En conclusion, vous pourrez lire à la maison Luc chapitre 11, versets 27 à 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Oh, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Dites-moi, c'était qui ça? On parle de Marie? Oh, qu'est-ce qu'il devait être heureux, ton fils ? Non, qu'est-ce que toi, tu devais être heureux d'avoir un fils comme ça ? Heureux, cette Marie ! Et Jésus répond quoi ? Heureux plutôt, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Parce que Jésus sait très bien qu'à ce moment-là de la vie de Marie, Marie ne croyait pas en lui. Et Jésus n'a pas trompé, mais Jésus a rappelé à chacun que le bienheureux, la bienheureuse, ce n'est pas Marie. Le bienheureux, la bienheureuse, c'est celui qui croit en la parole de Dieu. C'est celui qui retient la parole et qui la met chaque jour en pratique. Cet homme, cette femme est bienheureux parce qu'il aura dans sa vie l'approbation de Dieu. Il aura l'action de Jésus dans son cœur. Il communiquera, il aura une relation réelle avec ce Dieu vivant qui est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde, un Dieu de renouvellement, un Dieu de miracle. Amen. Alors que ce soir, nous puissions prendre quelques instants dans la prière afin de demander pardon à Dieu si nous savons que nous avons péché. Dieu n'est pas celui qui condamne, il est celui qui veut nous pardonner. Mais on ne peut pas recevoir le pardon de quelqu'un si on ne lui demande pas. Pour ceux qui ont déjà dans leur vie fait ces prières à Marie, que vous puissiez prendre conscience de l'impact spirituel sur vos âmes et que vous puissiez dire pardon, Seigneur. Retire toutes les conséquences de ces prières dans ma vie. Que nous puissions aussi prier.